Radio Kapi.
Oh, Kapi.
René Lindsay Bonera pour les informations.
Elles sont venues de Goma et de Bukavu. Elles, ce sont des familles déplacées des guerres qui se retrouvent au niveau de Lubumbashi qui ont manifesté mardi pour demander les autorités du Congo à pouvoir les assister. En Ituri, environ 100 décès communautaires ont été enregistrés à une semaine au point kilométrique 50 dans le territoire de Mambasa. Les médecins lancent un SOS aux autorités. Dans la rubrique invitée, nous suivrons Abdallah Penembaka, Carline Zanzoukassivita et Idelphonse Boakanakazi. Ils analyseront tour à tour la problématique liée à la dégradation de la situation sécuritaire à Mambasa et dans le Grand Nord Kivu du Nord Kivu. Merci de nous suivre dans le Grand Nord du Nord Kivu. Plusieurs dizaines de déplacés du Kivu ont organisé mardi un sit-in devant le gouvernorat du Haut-Katanga à Lubumbashi. Ces Congolais réclament toujours une assistance humanitaire et menacés de passer la nuit à la Belle Étoile, parmi eux des enfants. Brandissant des pancartes et calicots, l'on pouvait lire « Nos génocostes » ou encore « Les déplacés, victimes innocentes de la guerre, abandonnés à Lubumbashi ». Ils regrettent que leur démarche n'ait pas abouti après plusieurs mois de demandes, ce qui explique d'ailleurs la tenue de cette manifestation. De leur côté, les autorités du Haut-Katanga avaient promis une aide humanitaire, mais celle-ci n'est toujours pas arrivée, déplorent les déplacés. On écoute Paul Biamungu, président du comité des déplacés de l'Est du Congo, au micro de Paulin Munanga.
Nous sommes là pour demander aussi l'assistance humanitaire à nos autorités compétentes de la province ici, là où nous sommes. Nous demandons l'aide humanitaire à nos frères qui ont le bon cœur, nos compatriotes louchois et louchoises. Quelqu'un qui ne mange pas et quelqu'un qui n'a pas les soins médicaux. Et voilà pourquoi nous présentons ces génocostes aujourd'hui. En fait, que le monde sache que nous, les peuples de l'Est, de la RDC, nous sommes les victimes des massacres. Nos frères ont beaucoup subi ces massacres et nous, nous sommes les victimes de la guerre des déplacés internes ici à Lubumbashi, sans aucune aide humanitaire, ni gouvernementale, ni de l'ONG internationale, ni ONG nationale. Nous demandons à notre maman ministre des Affaires humanitaires, Son Excellence Eve Bazaïba, de nous venir en aide, puisque ici nous traversons la précarité. Nous avons déjà connu le décès de nos compatriotes, 4 déplacés internes ici à Lubumbashi, sans aucune assistance, même des funérailles. Comment nous pouvons être abandonnés jusqu'à ce niveau?
Dans le village de Mulima, Point Zéro et Rugezi, dans les territoires de Fizi, ainsi que Kipupu, Mikenge et Kiseke, dans les territoires de Mwenga au sud Kivu, les habitants traversent une grave crise humanitaire, certains étant contraints de passer la nuit en brousse. Selon des sources locales, ces populations fuient les bombardements attribués à des zones kamikazes venues du Rwanda, déclenchées depuis le 24 juillet et toujours en cours. Cette situation est dénoncée par le député national élu de Fizi, Nyamangoku Ishibwele, qui déplore que même les femmes et enfants blessés peinent à accéder aux soins. Il appelle le gouvernement à intervenir en faveur de ses compatriotes vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Le professeur Nyamangoku Ishibwele s'est confié à Radio Okapi.
À l'heure où je vous présente cette triste situation, les habitants sont en brousse, les blessés n'ont pas où se soigner, les enfants meurent de faim et ceux qui persistent dorment à la Belle Étoile, les exposant ainsi à des intempéries et des maladies diverses. En tant qu'élu du peuple, je condamne avec fermeté ces actes ignobles et je demande aux FARDC d'accomplir leur mission régalienne, à savoir protéger la population et leurs biens, et que les gouvernements de la République viennent en aide, en urgence, à cette population, meurtrie par une assistance en vivre et non vivre. À toutes nos populations de l'Est en général, et celles de Moyeu et au plateau en particulier, je salue votre résilience vis-à-vis de cette énième agression du Rwanda et vous rassurez qu'elle prendra fin et nous en sortirons vainqueurs. Les ténèbres ne régneront pas toujours, a dit le chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Nous arrivons maintenant dans les territoires de Mambasa où une cascade de décès est signalée. En une semaine, au moins 100 personnes sont mortes au niveau du point kilométrique 51. À ces décès s'ajoute la fermeture des plis des 40 structures sanitaires jadis opérationnelles dans cette entité minière. Le personnel soignant s'est réfugié à Nyanya depuis la destruction le 30 juin dernier du centre de traitement d'Ebola par certains habitants qui nient l'existence de l'épidémie d'Ebola. Le médecin chef des zones tire la sonnette d'alarme. C'est un reportage d'Isaac Remoyope.
Entre 10 et 15 décès communautaires liés à Ebola sont enregistrés chaque jour au point kilométrique 51 dans les territoires de Mambasa, à environ 45 km au nord de Bunia. Au total, une centaine de personnes sont mortes à l'espace d'une semaine, selon les médecins chefs des zones de santé de Nyanya. Il attribue cette situation au refus d'une partie de la population de reconnaître l'existence de l'épidémie. Cette contestation a conduit au saccage du centre de traitement d'Ebola le 30 juin dernier. À la suite de ces violences, 40 des 50 structures sanitaires de cette agglomération ont fermé leurs portes. Les personnels soignants et les relais communautaires, pris pour cible par les manifestants, ont également quitté la zone par crainte pour leur sécurité. Cette situation empêche non seulement la prise en charge des malades, mais aussi les activités de sensibilisation et de prévention, explique des sources médicales locales. Selon les mêmes sources, cette méfiance favorise la propagation de l'épidémie. Des habitants continuent de rejeter les mesures de prévention et manipulent les corps des victimes d'Ebola sans précaution. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Aller plus vite qu'Ebola, investir dans les temps communautaires, c'est le thème qui a regroupé les chevaliers de la plume autour du Conseil national des forats des ONG humanitaires. Nous sommes mardi 28 juillet à Kinshasa. Cette rencontre visait à échanger sur les stratégies permettant d'accélérer la riposte contre l'épidémie à travers une implication plus accrue des communautés locales. Devant la presse nationale et internationale, le coordonnateur national du CONAFOD, Dr Joseph Kakisingi, a centré son intervention sur les perceptions des organisations locales ainsi que sur leurs perspectives en vue de réduire la durée des cycles de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Benjamin Moudoumbi.
L'action locale dans la lutte contre Ebola constitue l'une des approches développées par la CONAFOD. À ce sujet, le coordonnateur national explique.
Être plus rapide qu'Ebola, la réponse doit désormais gagner les temps communautaires. Nous avons développé l'action locale de lutte contre Ebola. Son objectif est simple, agir avant que le virus ne prenne l'avance. Une réponse efficace ne peut pas se reposer uniquement sur les outils médicaux. Elle doit aussi restaurer l'adhésion des populations. Aujourd'hui, nous appelons les autorités sanitaires, les partenaires techniques et financiers et l'ensemble des acteurs de la riposte à faire du pilier communautaire une priorité stratégique.
Évoluant dans un contexte marqué par des déplacements massifs des populations, cette 17e épidémie d'Ebola se heurte à plusieurs défis susceptibles de favoriser sa propagation, souligne le docteur Joseph Kakisingi.
Dans les conditions passées, le virus d'Ebola a tué, mais cette année-ci, on est dans des conditions optimales pour permettre au virus de se propager davantage. Il y a la guerre, il y a les déplacements massifs, les mines qui attirent beaucoup de gens dans ces zones-là.
Créé en 2021, le CONAFOD œuvre pour le renforcement des rôles des organisations locales dans la réponse humanitaire et le développement. La plateforme regroupe aujourd'hui plus de 500 ONG à travers la République démocratique du Congo.
Un grave accident de circulation s'est produit mardi 28 juillet 2026 à environ un kilomètre du village de Mbangi, avant le secteur de Bukangalonzo sur la route nationale numéro 1 dans la province du Kwango, faisant état de 7 morts, un bilan encore provisoire. Selon les premières informations, un bus de transport en commun de la société Arche de Noé en provenance de Kinshasa et à destination des Kikwit aurait tenté d'éviter deux importants nids de poules sur la chaussée. Au cours de cette manœuvre, le bus est entré en violente collision avec une voiture de marque Toyota, communément appelée Lancée. Aucun survivant n'a été enregistré parmi les passagers qui se trouvaient à bord de la voiture Toyota. Les dépouilles des victimes ont été transférées à la morgue de Kenge en attendant les formalités liées à leur inhumation. Nous venons ici à Kinshasa, précisément à Kitambo Magasin, qui change de visage. Kitambo Magasin, c'est l'un des carrefours le plus fréquenté de la capitale de la RDC et qui est au cœur d'une vaste opération d'assainissement menée par les éléments du service national. Objectif, libérer les espaces publics, améliorer la circulation et redonner à ces points stratégiques de Kinshasa un cadre plus ordonné et plus salubre. Sur place, de nombreux patients ou passants alors saluent l'initiative qu'ils jugent nécessaire face à l'occupation anarchique des trottoirs et des emprises publiques. Mais cette opération ne fait pas que des heureux. Plusieurs petits commerçants sommés de quitter le lieu qu'ils occupaient parfois depuis des années dénoncent les conséquences de cette mesure sur les activités et le revenu. Entre satisfaction des usagers et inquiétude des vendeurs ambulants, l'opération suscite des réactions contrastées. C'est un reportage de Daniela Awa.
Kitambo Magasin, véritable carrefour d'où partent les véhicules à destination de plusieurs quartiers de la capitale, est l'une des principales plaques tournantes du trafic kinois. Habituellement bondé de monde, ce lieu où se croisent taxis, passants et commerçants est aussi le théâtre d'intenses activités économiques. Mais ce matin, Kitambo Magasin présente un tout autre visage. Armé de balais et de pelles, le jeune bâtisseur du service national a investi les lieux avec pour mission d'assainir cet espace public et de rendre la circulation plus fluide. Le changement est déjà perspectible. Les vendeurs qui occupaient habituellement cet espace ont été contraints de libérer les lieux. Ils n'ont qu'un seul souhait, reprendre leur activité après les départs de ceux qui y travaillent.
La manière dont ils balayent n'est pas mal, mais pour nous qui vendons au marché, beaucoup de familles meurent de faim et paient le loyer à partir de ces activités. Il faut qu'on trouve une solution de ce côté-là.
D'autres passants espèrent que cette opération sera pérenne pour redorer le blason de cet espace terni par le désordre qui s'y est installé.
L'incivisme avec lequel nous vivons fait un peu mal. On va voir que les mêmes gens ils vont revenir pour remettre encore à zéro tout le travail qui est en train de faire.
Notons que la première étape de ces travaux d'assainissement a commencé il y a plus d'une semaine dans le district de la Tchangou.
Plus aucun avion ne décolle de l'aéroport national de Chimpi. Nous sommes au Congo central et cela depuis plusieurs années. Cet aéroport, inauguré en 1955, est aujourd'hui à l'abandon. Sa route d'accès longue d'environ 4 km depuis la route nationale numéro 1 est fortement dégradée. Quant à sa piste de 1570 mètres, elle n'a jamais été asphaltée. Une situation qui contraste avec le rôle stratégique des Matadi, chef-lieu du Congo central qui abrite les principales ports maritimes de la RDC. Les détails sur cet état des lieux de cet aéroport avec Élise Kavira.
À peine quitté la route nationale numéro 1, le décor est planté. Un épais nuage de poussière accompagne les véhicules qui prennent la direction de l'aéroport national de Chimpi. Sur près de 4 km, la route en terre est marquée par des nids de poules et des signes visibles de dégradation. Pourtant, l'aéroport national de Chimpi constitue la principale porte d'entrée aérienne de la ville de Matadi. Construit entre 1952 et 1954, il a été inauguré en 1955 avec l'atterrissage d'un avion Douglas C-4 transportant à son bord le roi Baudouin de Belgique. Pendant de nombreuses années, cet aéroport a joué un rôle stratégique dans les liaisons aériennes entre le Congo central et le reste du pays, contribuant ainsi au développement des échanges et au désenclavement de la province. Plus de 70 ans après sa mise en service, sa piste longue de 1570 mètres est toujours en latérite, un revêtement de terre rouge compactée. Entre routes d'accès dégradées, infrastructures vieillissantes et activités aériennes à l'arrêt, cet aéroport reste loin des standards attendus pour une ville d'une telle importance économique et stratégique. Malgré les multiples annonces et promesses de réhabilitation formulées au cours des années, les changements concrets se font toujours attendre. L'aéroport de Chimpi à Matadi attend toujours sa modernisation. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Et puis les transporteurs à vélo communément appelés Bayanda, actifs dans le territoire dit Kasaï central, dénoncent de nombreuses tracasseries fiscales auxquelles ils sont confrontés lors de l'acheminement de leurs marchandises vers Kananga. Ils pointent notamment à la multiplicité des taxes ainsi que le nombre élevé des services de perception présents sur leur itinéraire. C'est un reportage de André Katendengala Mouloumé.
À vélo, il parcourt parfois des dizaines de kilomètres pour approvisionner Kananga en produits de première nécessité. Mais leur trajet est loin d'être facile. Les transporteurs à vélo, communément appelés Bayanda, dénoncent la multiplication des taxes et des postes de contrôle sur les routes qu'ils empruntent. Ils accusent la Direction générale des recettes du Kassaï central d'être à l'origine de ces tracasseries. Sur les 63 km qui séparent Mbemba de Kananga, ces transporteurs affirment traverser une dizaine de postes de perception. Une situation qui, selon eux, complique considérablement leur activité. Louis Moulumba, l'un de ces transporteurs, raconte qu'il y a plusieurs postes sur la route et à chaque poste, ils sont obligés de payer pour obtenir des documents, même constat pour Jacques Kabeya. Ces transporteurs affirment que, d'un poste à l'autre, les agents exigent de nouveaux documents ou le paiement d'une caution pour laisser passer le marchandise.
Il y a toujours des conditions pour ceux qui ont les documents et pour ceux qui n'en ont pas. Lorsque vous avez les documents, le contrôleur vous dit que ce sont des faux documents dans le but de vous soutirer de l'argent.
Contactées, les autorités de la DGRCAC ont indiqué qu'elles se prononceraient prochainement sur ces accusations. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous allons parler actualité internationale avec ces 5 agents de sécurité kényans qui ont été tués lors d'un affrontement avec le militant présumé d'Al-Shabaab dans le comté de Mandera près de la frontière somalienne, a indiqué la police. Ces groupes militants luttent depuis des années pour renverser le gouvernement central somalien et établir son pouvoir dans ces pays de la Corne de l'Afrique de l'Est.
L'invité.
Ce matin, nous recevons respectivement 3 invités. Il s'agit de Karline Zanzou Kassivita, ancien gouverneur de la province du Nord Kivu et député national, Abdallah Penembaka, mais aussi Idelphonse Bouakanakazi. Ensemble, ils analysent tour à tour la problématique liée à la dégradation de la situation sécuritaire à Mambasa et dans le Grand du Nord Kivu. Ils étaient donc des participants à l'émission Dialogue intercongolais d'hier soir. On les écoute au micro de Guy Maté.
Abdallah Penembaka, vous êtes député national élu du territoire de Mambasa, vous êtes ancien gouverneur de l'Ituri. Après ces reportages que nous venons d'écouter, quelle est votre réaction?
L'impression qui se dégage, moi personnellement, je suis un homme parfois, souvent frustré. Frustré lorsque je me dis, une fois j'ai eu mes maladies, c'est peut-être à cause de la distance. Ça se passe très loin de Kinshasa. Loin des institutions, les ADF ne menacent pas le pouvoir de Kinshasa. C'est pourquoi on ne les sent pas. Tout celui qui menace le pouvoir peut-être de Kinshasa, on les sent et il reçoit une réponse, une réaction appropriée. Le gouvernement n'y met pas suffisamment de moyens. Et quand je dis de moyens, ici, l'autre fois j'ai évoqué ici, il se pose un problème de coordination.
Au mois d'avril dernier, dans cette même émission, vous avez dénoncé la tuerie des 100 civils par les ZDF, toujours dans les territoires de Mambasa. Aujourd'hui, 3 mois après, vous revenez pour dénoncer encore de nouveaux massacres des civils par les mêmes ZDF. Pourquoi, à votre avis, la situation, au lieu de s'améliorer, elle empire davantage? Et vous avez évoqué le fait que Kinshasa ne prend pas au sérieux cette menace ZDF. Mais vous ne pensez pas que le fait qu'il y a cette extension territoriale des ZDF qui sont maintenant actifs dans 4 provinces, que cela puisse interpeller le gouvernement national afin que celui-ci puisse prendre la mesure de la chose, n'est-ce pas?
En principe. Parce qu'en dehors de ça, vous avez parlé de Otwile, Ouacha. Vous savez que la République a des intérêts à protéger à Ouacha. Ces intérêts-là, s'ils arrivent à être touchés, ça peut affecter gravement la République. Il ne faut pas oublier que des sites miniers qui ont été à un moment abandonnés, pillés, les EDF se sont mis à exploiter. Pangoï n'est pas n'importe où dans le groupement Bakaïko. Et tous ces sites miniers-là, lorsque les EDF, ils envahissent, ils tuent, ils incendient, ils s'accaparent, ils exploitent de l'or. Mine de rien, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Le moment est venu pour qu'on prenne cette histoire au sérieux.
Merci Karline Zanzou Kassivita, vous êtes député national élu des Beni Territoire, vous êtes vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, vous êtes également gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu. Comment vous comprenez cette détérioration de la situation sécuritaire causée par les ZDF en Ituri et dans les grands nord du Nord Kivu, en dépit de toutes les opérations militaires qui ont été menées contre ces groupes armés?
Il est vrai que on peut expliquer la résurgence ou la multiplicité des atrocités des ADF par beaucoup de facteurs. Mon collègue Abdallah vient de faire une synthèse de certains faits. Il faut d'abord souligner aujourd'hui que la République démocratique du Congo devrait déjà comprendre les modes opératoires des ADF parce qu'il y a plus de 10 ans que nous sommes sur cette guerre. Il faut retenir aussi que les ADF se sont déjà affiliés à une branche islamiste, Daesh, et qui finance aujourd'hui. Et donc, dans le contexte d'aujourd'hui, les ADF ont plus de moyens parce qu'ils reçoivent non seulement les moyens de Daesh. Mon collègue vient de dire qu'ils ont établi des redevances qu'ils perçoivent auprès de la population au niveau du territoire de Mambasa. Aujourd'hui, il faut aussi comprendre qu'il y a des cellules au niveau de la région, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, à Tanzanie, qui contribuent, qui financent. Et donc aujourd'hui, les ADF ont plus de moyens qu'avant. La République démocratique du Congo devra comprendre que c'est de plus en plus qu'on laisse le temps aux ADF. Ces derniers deviennent une menace assez importante contre l'économie et la vie de nos populations, parce que c'est chaque jour qu'on déplore les morts.
Merci Ildefonso Bakianakazi, chercheur à Ebouteli, vous êtes spécialiste de la question ADF. Quelle lecture vous faites de la détérioration de la situation sécuritaire causée par l'activisme des ADF en Ituri et dans les Grands Nord du Nord Kivu?
Oui, je pense que dans la lecture de ce qui se passe sur notre scène politique nationale, on se rend compte certainement que les questions de sécurité de la population est reléguée au second plan. Ce qui fait qu'on se rend compte que cette question n'est pas priorisée, n'est pas vraiment parmi les prioritaires du gouvernement au niveau central. Et comme on le disait, comme c'est un phénomène qui ne menace pas la stabilité des institutions, cela est relégué au second plan.
La plus belle femme du monde est Don Kesekela, mesdames et messieurs. La fin de la 3e édition de nos journaux sur Radio Okapi. Merci de l'avoir suivi.